l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Kayrouga.
Mohamed Kenezi, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes le fondateur de l'association Herménéo, consultant en faits religieux et...
Enseignant théologie, donc investi dans la formation des imams, mais aussi des prêtres, diacres aussi. Et je suis également chercheur en islamologie, donc voilà.
Alors aujourd'hui, on va parler du lien entre la religion de l'islam et l'écologie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais creusé dans notre émission, l'ours et la carotte, et qui est très très intéressant d'un point de vue certainement de changement social. Si on arrivait à mobiliser beaucoup de gens qui font partie de la religion de l'islam sur la question écologique. Donc aujourd'hui on est dans le cadre du G7, on entend le contre-sommet du G7 pour construire des alternatives à la mondialisation, on entend les hélicoptères passaient juste derrière nous, et vous co-animiez aujourd'hui un atelier sur la religion et l'écologie avec des membres d'autres religions. C'est justement quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup.
Oui, en fait on travaille, enfin je suis engagé, pleinement engagé sur le plan du dialogue interreligieux, non pas le dialogue au niveau, on va dire, des débats théologiques, mais plutôt le dialogue des œuvres, donc porter un regard de croyants, et pas que les croyants, et donc toutes les convictions, sur les questions de société, puiser dans sa propre tradition pour voir quels sont les points de similitude, les textes sur lesquels on peut s'appuyer pour le discours religieux, pour qu'il soit... pour savoir répondre en fait judicieusement aux enjeux contemporains. Et je pense que l'enjeu écologique, c'est un enjeu primordial qui touche tout le monde. Pour les chrétiens, on a, notamment les catholiques, on a Laudato Si, l'encyclique du pape François, et on parle de mise en commune. Et je pense que c'est le titre qui résume bien donc, cet enjeu-là. Nous vivons dans une mise en commune et nous devons à ce titre-là mener pas forcément une réflexion commune, mais des réflexions conjointes et un engagement commun.
Alors il y a une question qui a été posée tout à l'heure, ça peut paraître assez étrange d'avoir un débat dans le cadre d'un contre-sommet au G7 avec des altermondialistes, ça peut paraître étrange de parler de religion. Est-ce que vous, ça vous semble étrange ?
Je peux comprendre la question, mais je ne la partage pas parce que je pense que les religions, les spiritualités ne sont plus ni de droite ni de gauche. Et donc cette appropriation qui a existé dans l'histoire est complètement archaïque. Les enjeux sont tellement de taille que toutes les spiritualités, tant qu'elles s'offrent comme un cadre d'épanouissement et d'engagement citoyen, sont les bienvenues. Et toutes les convictions, au-delà des spiritualités.
Et finalement, ça veut dire aussi que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, elle appartient à tout le monde.
Et à toutes les traditions et toutes les convictions. Et ça, ce qui veut, enfin, moi, je suis intervenu en temps pour présenter un peu la présence de discours, de notions écologiques dans les textes de l'islam. Les références, donc les écritures saintes de l'islam sont en premier lieu le Coran, qui représente pour les croyants musulmans, pour les fidèles musulmans, la parole divine. Ensuite, en deuxième lieu, on parle de la sunna, et la sunna, c'est la tradition prophétique, donc l'ensemble des dires, des actes et des approbations du prophète de l'islam. Et il faut comprendre que les textes de l'islam ne sont pas des manuels d'écologie, mais néanmoins, ça nous interpelle, ça nous questionne sur la présence de l'être humain sur Terre, sur sa relation avec Dieu et avec la nature. Et en premier lieu, cette première question, que veut Dieu de l'être humain ? Et on va trouver ce pacte, ce dépôt au Dieu dans le verset, c'est la sourate 33, le verset 73, l'avant-dernier verset, où il va questionner, il va proposer un dépôt aux cieux, à la terre, mais qui vont refuser, et seul l'être humain, seul l'homme qui va accepter ce pacte-là, ce dépôt-là, à savoir prendre soin, être le vicaire, le lieutenant, le gestionnaire, le représentant de Dieu sur Terre.
Donc finalement, ça veut dire que, quelque part, Dieu, dans l'islam, donne la responsabilité de l'homme de gérer la nature ?
Tout à fait. Donc l'être humain, il est responsable de la nature auprès de Dieu, mais avec deux notions importantes, que toute la créature, elle rend gloire à Dieu, elle est douée d'intelligence, de spiritualité, et que l'ensemble des animaux sont des créatures comme les humains. Donc il n'y a pas de supériorité de l'humain sur les autres communautés, ça d'une part. Et d'une autre part, il y a même une dimension eschatologique pour les autres communautés, c'est-à-dire pour les animaux, comme l'islam met vraiment, et le discours religieux traditionnel met beaucoup l'accent sur l'au-delà, mais pareil, bah, ça intéresse aussi toutes les autres créatures. Et que l'être humain, dans son cheminement spirituel, doit rendre des comptes de sa gestion de la nature.
Alors du coup, ça c'est en se basant sur les textes, sur l'interprétation des textes, mais après il y a eu quand même toute l'interprétation qui a pu être faite et la civilisation qui a évolué dans le temps. Et aujourd'hui, il y a eu quand même une énorme déconnexion de l'homme avec la nature. Donc comment vous l'analysez d'un point de vue de l'islam ?
En fait, dans l'islam, on a le Coran qui jouit d'une linguistique riche, complexe, d'un niveau pour nous, enfin pour les musulmans divins, donc, qui est assez inaccessible pour le musulman lambda, et notamment pour les non-arabophones. Et on a un exemple, c'est le prophète de l'islam qui a un exemple de mise en pratique de ce Coran. Et ce prophète, il est dans la tradition qui est rapportée, donc il jouit donc essentiellement de cette particularité d'éthique de la modération dans sa consommation, dans ses recommandations. On va toujours retrouver donc ces explications que un être humain qui maltraite un animal, donc comme en récit, ou à quelqu'un qui rentre en enfer seulement parce qu'il maltraite un chat qu'il a enfermé, ou une prostituée qui sera complètement, à qui Dieu offre le salut uniquement parce qu'elle a sauvé un chien assoiffé. On va trouver beaucoup de modération dans la consommation, dans les ablutions qui sont importantes et indispensables pour faire la prière, dans la consommation de l'eau, dans les habits, les vêtements. Néanmoins, donc, tôt, avec l'hégémonie en fait de l'islam qui naît comme religion, comme foi, mais après qui grandit comme civilisation, comme État et comme entité, comme empire, l'accent sera rapidement mis sur la loi. Et la loi donc, va mettre de côté les questions spirituelles et théologiques, mais plutôt va questionner la licéité des actes. Et forcément, donc, ce rôle important de spirituel de la nature dans le cheminement du croyant va disparaître au détriment de la question du droit, du permis et non permis. Et donc forcément, donc, au jour d'aujourd'hui, on assiste, le musulman lambda, c'est un consommateur comme les autres, et qui n'est pas à l'image de son prophète, donc qui va consommer 10 fois plus d'eau pour faire ses ablutions, pour faire son bain, qui ne va pas forcément se soucier de la maltraitance animale, mais qui est très important qu'il va manger halal, ça veut dire permis. Et le discours de tout juridique a faussé la donne et a faussé un peu ce rapport avec la nature et ce devoir spirituel de l'homme envers la nature et envers son Dieu.
Alors là, il y a une manifestation qui arrive dans le cadre de ce contre-sommet G7. On les entend un peu au loin, là, qui arrivent. Ils ont l'air assez nombreux. On va voir si on peut continuer. Donc, dans le Coran, l'être humain fait partie de la nature, il a cette responsabilité par rapport aux autres êtres vivants qui lui a été donné par Dieu de bien gérer la nature. Et cependant, on a vu des dérives récentes liées à notre civilisation actuelle. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience du monde musulman. Comment ça se passe au niveau de l'écologie politique ? Est-ce qu'on sent des tremblements ? Est-ce qu'on sent que ça change ?
J'avais oublié juste de mentionner que dans le Coran, il y a un autre livre en dehors du Coran, c'est le cosmos dans lequel on vit. Et le Coran renvoie dans un tiers de ses sourates les croyants à contempler la nature, à regarder les versets, les signes en arabe, les ayats, qui sont dans la créature. Et que c'est aussi un livre qui est ouvert à tous les croyants, à tous les gens, pour y trouver, en fait, s'y inspirer, pour les aider donc, dans leur cheminement spirituel. Quant à discours, en fait, le discours écologique musulman, il est assez tardif, en fait. Déjà parce que la présence musulmane, donc, en nombre, initialement c'était ouvrière, donc c'était sur un plan économique, dans les années 60, c'était essentiellement des gens qui maîtrisaient peu la langue française et qui étaient dociles et invisibles. Et que c'est après les années 80, et la marche des beurs, qu'on va assister donc, à l'émanation d'acteurs associatifs musulmans, bien que le fait religieux était moins présent. Actuellement, depuis une quinzaine d'années, on voit naître en fait quelques auteurs, quelques acteurs associatifs musulmans, essentiellement en dehors des mosquées, en dehors des fédérations musulmanes qui gèrent le culte, et qui vont essayer de partager cette prise de conscience écologique, de questionner un peu, de re-questionner les textes, d'attirer l'attention du consommateur lambda, et de dire que l'engagement écologique, c'est quelque chose de, qui n'est pas étranger en fait à l'héritage de l'islam. Et on est en train, donc, un certain nombre d'acteurs, de théologiens, de revoir dans les textes, dans l'héritage, de découvrir en fait des exégètes, de redécouvrir des exégètes du 9e, du 11e, du 15e siècle, et qui attiraient l'attention, bien qu'ils n'étaient pas dans des sociétés de surconsommation, de surproduction, à mettre cette importance primordiale à être en harmonie avec la nature. Au jour d'aujourd'hui, on souffre dans la formation des imams, dans le discours religieux traditionnel, du tout juridique, de l'absence de prêche du vendredi en environnement. J'ai eu la chance d'avoir des résultats d'une enquête qui a été menée en 2017-2018 sur toute une région, donc un ensemble de départements, 7 ou 8 départements dans l'ouest de la France, où pendant entre l'année 2017 et 2018, on a enregistré dans plus d'une vingtaine de mosquées aucun prêche sur l'environnement. Certes, il y a quelques séminaires, donc quelques conférences, mais c'est essentiellement des gens qui sont externes aux mosquées. Néanmoins, donc, on voit les prémices d'une prise de conscience donc, chez certains sur les lieux de culte. Pareil, donc, on a vu naître 2 mosquées écolos, 4 projets de mosquées écolos, mosquées vertes, dont une en partenariat donc, avec des acteurs chrétiens de l'église de ce label, l'église verte. On commence à noter aussi des changements de consommation, donc on ne va pas se tourner directement sur le juridique illicite, le halal strictement, mais on va chercher donc, le bio halal. On a vu naître des épiceries bio, des boucheries bio, des forums, des blogs, des pages Facebook, des conférences, des séminaires. Néanmoins, ça reste minime. C'est, on est encore aux prémices de quelque chose que j'espère qui sera fédéré et qui pourra spiritualiser un peu, recorriger le rapport du croyant avec la nature.
Yes. mistake of the road traveler from 10 months ago. Do you remember Hans, the bus driver? When I put the red ball on the blue ball, the two black balls, and Hans pushed on his brakes, and the four balls went down to that. And Hans said, get those four balls away from the camshaft. Well, these are the days, my friends. And these are the days, my friends. It can get the railroad for these prisoners. So will it get some wind for the sailboat? And it could get for it is. Will it get some wind for the sailboat? And it could get for it is. It can get the railroad for these prisoners, and it could be where it is. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It could be Frankie. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be a blue one. These are the days, my friends. And these are the days, my friends. It could get some wind for the sailboats, and it could get sailboats. It could get the railroad for those workers, and it could get for it is blue. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. All these are the days, my friends. And these are the days, my friends.
These are the days, my friends.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Get the railroad.
6, 7, 8.
Two lovers sat on a park bench, with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. Do you love me, John? She asked. You know I love you, darling, he replied. I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being. Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more she spoke. How much do you love me, John? She asked. He answered. How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say?
En voulant rentrer un petit peu plus dans les détails sur la question des mosquées vertes, donc ça veut dire qu'il y a une gestion écologique au sein du bâtiment, concrètement, ou il y a aussi une sorte d'implication des gens qui viennent faire les prières.
Sur une étude, par exemple, sur l'étude de l'Ouest parisien, la plupart, en fait, les grandes, donc il faut séparer les grandes mosquées des salles de prière, dont les salles de prière, ce sont essentiellement les fidèles qui font le ménage. Donc, et ça se limite à ça, on ne trie pas le déchet. Le déchet, ce n'est pas quelque chose qui est encore dans l'ordre du jour, on va dire. Dans les grandes mosquées, souvent, on fait appel à des sociétés externes. On n'a pas forcément de tri de déchets. Hormis deux mosquées sans écolo, donc une à Massy dans la région parisienne et une donc, sur l'agglomération lilloise, on n'a pas de modèle, en fait. Pour l'instant, mais ce sont des acteurs qui essaient d'éveiller un peu les consciences et notamment s'investir et alerter les acteurs musulmans qui sont responsables de projets de mosquées. Dire en amont, attention, mettez en avant, ayez conscience de ce devoir, de cette responsabilité écologique. Moi, je suis engagé notamment sur la formation des imams. Ça commence à prendre, mais ça reste encore minime. On est encore sur quelques dizaines d'imams engagés sur un ensemble de plus de 1400 ou 1500 imams. Donc ça reste encore tout naissant, mais très dynamique.
Alors il n'y a pas d'autres exemples à travers le monde de communautés islamiques qui sont engagées sur l'écologie ?
Sincèrement, en fait, on a on s'ouvre peu en fait sur le Mans, sur la question, mais on s'ouvre sur les autres traditions. Donc on regarde à côté, et là notamment en fait, enfin moi j'ai pas de mérite, mais je suis un éternel étudiant, donc j'étudie en théologie, donc en théologie comme à l'Institut catholique, donc Laudato Si parle à tout croyant.
C'est l'encyclique du pape qui a été fait au moment un peu de la COP21 qui parle d'environnement et qui incite toute la communauté chrétienne à aller vers l'écologie.
Et surtout qui met en fait le lien entre l'engagement social avec l'engagement écologique. Et ça parle en fait véritablement aux musulmans. Et nous, on essaie dans notre association de créer ce lien entre les acteurs chrétiens et autres, les acteurs écologiques, avec les acteurs musulmans, avec les fidèles, les consommateurs, pour sensibiliser, avec les responsables de mosquées également. La mosquée de Créteil, le projet, il est né donc, d'une journée d'études donc, organisée par l'association Arménio, Spiritualité et Écologie, où voilà, une responsable du label Église Verte a commencé à partager de leur expérience, et parce qu'il y a tellement de similitudes dans les réflexes des fidèles qui sont d'abord des consommateurs, dans les enjeux, donc, et on a tout à gagner en favorisant ces partenariats et ces échanges.
Il y a une question qui est revenue dans toutes les religions, c'est bien sûr la question de la surconsommation qui est vraiment quelque chose qui nous touche tous. Est-ce que ce ne serait pas finalement lié à la perte de spiritualité? Beaucoup de gens qui sont perdus et qui trouvent finalement dans la consommation un sens à leur vie parce que justement en manque de spiritualité.
Normalement, la religion devrait être, moi je la représente souvent comme un cadre d'épanouissement. C'est un mouvement circulaire avec, enfin, avec le créateur, mais aussi avec les créatures. Malheureusement, le tout juridique tue la spiritualité. Descartes disait « je pense donc je suis, aujourd'hui je consomme donc je suis ». La consommation était et est encore, pour beaucoup de musulmans lambda, un moyen d'estime, de valorisation, notamment pour les premières générations, donc de voir des produits halal chez Carrefour ou chez les grandes enseignes sans faire de publicité, est très jouissif. Donc la naissance aussi de beaucoup de points de vente et de commerce dit communautaire offre en fait encore une reconnaissance par la consommation. Cette surconsommation, est-ce qu'elle est fidèle à la philosophie de l'islam ou pas? Je pense qu'il y a une responsabilité, une défaillance dans le discours religieux ambiant qui peine en fait à... et dans les activités en fait proposées, qui a peiné à attirer plus, je dirais pas de fidèles. Moi, le côté dogmatique et croyance, ça m'importe peu sur ce champ-là, sur cet engagement-là, mais plutôt sur la notion du plaisir, la notion d'épanouissement. C'est-à-dire, si notre engagement auprès de l'autre humain, si notre engagement auprès de la nature, auprès de multitudes, de multiples causes, ne nous produit pas de plaisir, et si on n'arrive pas à le montrer, à le commercialiser de la sorte, c'est qu'il y a une défaillance déjà dans le discours religieux, et qu'il faudra savoir, il faudra peut-être se mener d'autres outils, de revoir un peu comment dynamiser cet engagement, comment reprendre un peu l'éducation peut-être populaire, l'éducation peut-être dès le jeune âge, donc repenser notre façon de vivre, d'exister, notre rapport, la notion de plaisir, notre rapport à la nature. Tout à l'heure, il y avait le représentant des éclaireurs donc, protestants du mouvement scout. Et c'est magnifique parce que sans rentrer dans la croyance, le dogme, c'est propre en fait à tous les scouts qui sont engagés, on apprend l'amour et le respect de la nature. Cette notion d'utilité et qui nous procure naturellement du plaisir, et naturellement de l'estime, naturellement de l'amour, naturellement de l'épanouissement. Et la question, on va dire, de croyance ou pas, donc viendra, enfin ça reste très intime, ça viendra différemment.
Oui, dans l'idée finalement d'un monde de plus en plus urbain, déconnecté de la nature, où finalement il faut la connaître pour l'aimer, pour mieux la protéger, ça c'est ça qui avait été dit aussi. Et effectivement, il y a des belles expériences d'éducation populaire pour les jeunes chrétiens qui depuis très longtemps hein, font des camps dans la nature et ça leur apporte beaucoup. Et alors finalement, du coup, on pourrait peut-être finir cet entretien sur cette association Herméneo dont vous êtes le fondateur, Mohamed Kenessi. Qu'est-ce que vous y faites et comment vous œuvrez donc pour essayer d'avoir un dialogue interreligion?
Herméneo, donc ça vient de... Alors j'ai découvert le terme lors d'un cours d'exégèse publique. Et ce verbe Herméneo, à l'origine de l'herméneutique, traduire, interpréter les textes sacrés. Et on s'est posé ce postulat-là. Le fait religieux est de retour, les textes sacrés sont traduits en français. Et comment les interpréter en termes d'engagement, d'action, ensemble? Comment les questionner ensemble? Et donc c'est un groupe d'amis. Différentes traditions, différentes affinités, et on s'est dit, mais pourquoi le fait religieux est souvent utilisé comme élément clivant, comme problème? On va en faire un cadre d'épanouissement, on va faire un élément de lien, on va essayer de créer du lien entre des acteurs, entre des personnes qui viennent de traditions, de convictions, de sphères très différentes, qui parfois sont engagées dans le même champ d'action, mais qui n'ont pas forcément un cadre bienveillant pour se connaître, pour partager, pour réfléchir ensemble et pour œuvrer ensemble. Et ce qu'on essaie de faire avec nos propres moyens, d'une manière totalement indépendante, parce que le jeu de l'indépendance il est très primordial donc, dans ce genre d'approche, on a forcément des partis politiques, des élus, parfois des fédérations religieuses qui veulent s'accaparer tel ou tel événement. Loin de l'engagement écologique, actuellement on travaille sur des projets d'émissions pour France Télévisions avec des acteurs de terrain, parce que ce qui se fait sur le terrain et cette fraternité réelle, ce lien social qui existe et que leurs créateurs peinent à être visibles, on essaiera de le mettre en avant sur une émission télé. Quant à l'engagement écologique, notre petite réussite à notre échelle, c'est mettre des acteurs ensemble sur des projets communs, à réfléchir et à œuvrer, à partager surtout de leur expérience. Ça relativise, ça renforce chacun dans sa propre spiritualité, son propre cheminement, mais surtout, on trouve, on gagne en solutions judicieuses, en synergie, on crée des synergies et on espère donc réussir ce pari.
Merci beaucoup, donc, Mohamed Kenessi. Donc, si on est intéressé sur toutes ces questions de l'islam et de l'écologie, est-ce qu'il y a une lecture à faire d'un article que vous avez écrit ou d'un auteur que vous connaissez?
Alors je vais vous renvoyer sur les écrits d'un ami qui est engagé, c'est un militant écolo, qui est aussi musulman engagé, c'est Nadim Ghotban, et que vous aurez peut-être le plaisir d'écouter sur votre radio. Merci.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.